Racontez le réel.
Racontez le réel.
Racontez le réel. Le podcast qui explore.
Le podcast qui explore les dessous du documentaire.
Bonjour, je suis Clément et je vous emmène découvrir les dessous de la création documentaire. Épisode 37, filmer l'intime et le politique au féminin, deuxième partie.
Tous les personnages du film ont une très grande conscience de en quoi leur existence et ce qu'ils vivent au quotidien est politique. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont dans le film et c'est ce qu'ils racontent. Ils savent très bien que faire un film ne va pas changer leur vie, mais faire ce film et s'exposer, mettre sa vie dans ce film, c'est parler, enfin c'est donner sa vie au cinéma comme on donne sa vie à la science.
À l'occasion de la 46e édition du Festival Cinéma du Réel, qui a notamment consacré une rétrospective à Claudia von Allmann en lien avec le thème « Filmer l'intime », nous vous proposons trois épisodes pour explorer l'intime et le politique au féminin avec six réalisatrices de trois générations différentes. Après avoir rencontré les pionnières Claudia von Allmann et Claudine Bory dans le premier épisode, dans ce second épisode, je vais à la rencontre de deux réalisatrices nées dans les années 80 et 90. Toutes deux sélectionnées au Festival Cinéma du Réel 2024. La première invitée est Alex Poukine, qui s'était fait remarquer en 2019 pour son film « Sans frapper ». Aujourd'hui, elle vient nous parler de son nouveau film « Sauf qui peut », lauréat du prix des Jeunes Ciné Plus et mention spéciale du jury des bibliothèques au Festival Cinéma du Réel 2024, dans lequel elle filme, dans un centre de formation, de vrais soignants et de faux patients qui simulent des consultations médicales dans le but de développer les qualités humaines des thérapeutes. Ma seconde invitée est la réalisatrice Mallory Eloi Pesley, qui présentait cette année son premier long-métrage au Festival Cinéma du Réel, « L'homme vertige », une déambulation intime et politique dans la ville de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Filmer l'intime et le politique au féminin, deuxième partie, ça commence maintenant. Bonjour Mallory et Alex.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté donc cette invitation et de venir nous parler de votre cinéma, notamment avec cette thématique qui sera notre fil rouge tout au long de cet épisode, filmer l'intime et le politique au féminin. Mais pour commencer, la première question, c'est quel est votre parcours à chacune? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du cinéma? Mallory?
Alors, d'abord, merci de m'inviter. Et qu'est-ce qui m'a donné envie de faire du cinéma? Je pense que, comme je l'ai dit à ma projection, je suis devenue réalisatrice pour faire ce film. Parce que d'abord, je n'ai pas fait d'études de cinéma. Je suis passée par les ateliers Varan, avec Varan Caraïbes en Guadeloupe, en 2016-2017. C'est une formation, c'est la plus longue formation de Varan, qui a duré 5 mois. Et c'est comme ça que j'ai réalisé le film « Chansy Blues ». Et donc, j'ai commencé par des études en histoire de l'art, muséologie, médiation culturelle, en fait, c'était à Paris 3. Et puis, c'était trop difficile de vivre en France, c'était trop difficile de vivre à Paris, puisque moi, j'ai grandi en Guadeloupe, j'ai vécu toute ma vie là-bas et je vis encore. Et donc, j'ai profité de la troisième année pour faire un échange universitaire à Montréal. Et donc, j'ai continué là-bas, plutôt en histoire de l'art. Mais je me suis toujours intéressée au cinéma, enfin à tous les arts, au théâtre. Donc, ces études à la Sorbonne Nouvelle, c'était très éclectique. Il y avait dramaturgie, théorie du cinéma, musicologie, sociologie. C'était hyper vaste. Et quand je suis allée à Montréal, je me suis plutôt concentrée sur la partie histoire de l'art, et commencer à faire de la photo et avoir plus de films. Et après, suite à un choc, un accident de voiture assez grave et la découverte d'une maladie, et je retourne vivre en Guadeloupe. Voilà. Et ça, c'était après avoir voyagé pendant un an, après la licence à la Sorbonne. Je suis allée en Asie du Sud, dans le Pacifique, en Nouvelle-Zélande et en Nouvelle-Calédonie. Et ce voyage m'a rendue encore plus pessimiste. Je me suis rendue compte qu'en fait, je ne pouvais pas voir le monde autrement qu'à travers ce prisme de la domination et de la colonialité. Ce que je voyais dans ces contrées, en devenant l'autre, en fait, en devenant celle qui va dans le pays de l'autre, je me suis vue être chez moi et voir l'autre venir chez moi. Et donc, je reviens en Guadeloupe 3 ans après être... Enfin, je veux dire, je suis partie 7 ans, mais je suis restée 3 ans sans y aller. Et donc, c'est comme si je revoyais tout, mais avec un autre regard. Et en tout cas, cette violence qu'on vivait déjà, ça m'est apparu de manière évidente à mon retour. Et en plus, en faisant Varan là-bas. Donc, je suis devenue réalisatrice en apprenant à faire un film. Voilà.
Et vous parlerez de votre film, d'ailleurs, L'Homme Vertige, qui est très en lien avec ce que vous dites juste après. On passe à Alex en attendant sur qu'est-ce qui vous a donné envie de faire des films et quelle est votre formation.
Merci aussi pour l'invitation. Depuis toute petite, moi, je voulais faire des films parce que je trouvais que la vie était vachement mieux au cinéma qu'en vrai. Donc, comme je ne voyais pas de documentaire et que je ne savais pas très bien ce que c'était que le cinéma, j'ai voulu faire de la fiction. Sauf que venant d'un milieu qu'on dit populaire, je n'avais pas vraiment les codes. Donc, j'ai essayé de passer le concours de la FEMIS et ça n'a pas très bien marché. Du coup, j'ai étudié l'anthropologie. Et je crois que, en fait, j'avais pas complètement envie de coller au réel. Je crois que j'avais envie d'en faire quelque chose que je puisse regarder, en fait. D'en faire quelque chose de regardable, c'est vraiment ça. Et aussi, je pense que j'ai voulu faire des documentaires parce que, venant de mon milieu, il y avait quelque chose qui était plus immédiat. J'ai l'impression que je me sentais légitime dans le social, entre guillemets, et moins dans un autre milieu qui serait celui de la fiction. Et puis j'avais l'impression qu'il y avait plein d'histoires qui n'avaient pas été racontées. Et il y avait quelque chose d'un sentiment de la honte. Il y avait quelque chose d'une violence que j'avais envie, c'est pas une envie en fait, c'est que j'avais besoin de raconter. C'est hyper grandiloquent de dire un truc de survie, mais j'ai l'impression que moi je fais des films pour les mettre en boîte et pour que ma vie soit possible. Bon, j'aurais peut-être pu être boulangère ou d'autres trucs, mais j'ai l'impression que le cinéma, moi, ça m'aide à vivre, à accepter, à partager, en fait, des trucs qui me scient un peu les genoux. Voilà.
Toutes les deux, vous traitez dans vos films qui ont été donc montrés cette année à Cinéma du Réel, de l'intime, on peut le dire, de manière très différente. L'intime des racines et d'un lieu pour vous, Mallory, et l'intime du corps médical de votre côté, Alex. Commençons par vous, peut-être, Alex. Pouvez-vous nous présenter votre film « Sauf qui peut » ?
Ce que je peux dire, c'est que c'est pour mes 3 derniers films, en fait, c'est comme si les films s'auto-engendraient les uns les autres. Un film en amène un autre. Donc avant de faire Sauf qui peut, j'ai fait un film qui s'appelle Sans frapper, qui est un film sur un viol et qui est un film avec un dispositif fictionnel où il y a plusieurs personnes qui racontent la même histoire, enfin qui racontent l'histoire de quelqu'un comme s'ils étaient elles et qui ensuite racontent ce que ça leur a fait en fait d'interpréter cette histoire. Et à la sortie de Sans frapper, il y a une médecin urgentiste qui m'a dit « Ah oui, ça me rappelle vachement le dispositif de la simulation humaine en santé. » Donc je ne connaissais pas du tout. Et comme j'ai eu la chance de présenter Sans frapper au Canada et que la simulation humaine est hyper développée au Canada, j'ai pu rencontrer des gens et j'ai été hyper fort fascinée. Donc la simulation humaine en santé, c'est des patients et des patientes simulés qui simulent ça peut être des entretiens médicaux, mais ça peut être aussi des consultations médicales, ça peut être, c'est très 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 varié le nombre de scénarios, auprès d'étudiants en médecine ou de médecins confirmés. Et pendant longtemps, j'ai fait des repérages et j'étais complètement fascinée parce que les patients simulés, en fait, donc il y a ces consultations médicales, et ensuite les patients simulés sortent de leur rôle et racontent en débrief ce que chacun des gestes et des regards et des mots de ces médecins leur a fait. Et j'ai trouvé que c'était génial parce que c'est exactement en fait ce que dans la vraie vie on devrait tous savoir faire et qu'on nous apprend pas à faire. Et puis c'était comme j'avais beaucoup traité de la violence dans mes deux derniers films, j'avais beaucoup accompagné ces films et donc c'était devenu trop difficile pour moi de traiter de la violence. Je voulais traiter de quelque chose qui est fait pour ne pas qu'elle advienne. Et donc là c'était merveilleux en fait. Et jusqu'à ça. C'était super jusqu'à ce que un jour en simulation, donc c'était une simulation en Belgique, c'était des gens qui apprenaient à dire, à annoncer à des parents que leur enfant était mort et qu'il fallait prélever très vite les organes si on voulait sauver d'autres enfants. Et donc la simulation se passe et à la fin de la simulation, en débrief, l'infirmière dit « en fait c'est hyper dégueulasse ce que vous faites ». Parce que là, j'ai 20 minutes pour annoncer, ou une demi-heure pour annoncer aux parents que leur enfant est mort. En vrai, et il y a un médecin qui m'accompagne, on est deux. En vrai, j'ai 5 minutes, mon téléphone n'arrête pas de sonner. Je suis seule, je ne suis pas formée pour le faire, et je le fais parce que si on doit attendre 4 heures que le médecin arrive alors que l'enfant est mort, c'est impossible. Et donc, en fait, vous me demandez d'être bienveillante, vous me formez à la bienveillance, alors que moi, le système est en train de me broyer. Et que je ne peux pas être bienveillante au sein d'un système en fait, qui est maltraitant. Et la maltraitance, je la reporte. Et, et c'était tellement, tellement vrai. En fait. Enfin, ça m'a, cette espèce de, enfin, depuis longtemps, ça m'intéresse à cette espèce de dialectique entre la responsabilité individuelle et la responsabilité collective. Et comment, qu'est-ce qu'on accepte en fait, de transmettre de cette violence-là et comment on peut être à la fois victime et bourreau, et témoin. J'ai décidé, du coup, de donner aussi la parole aux soignants. Sauf qu'il fallait trouver une façon de le faire qui soit cohérente avec le reste du film. Donc j'ai cherché des endroits où les soignants pouvaient faire des jeux de rôle. Et j'ai découvert qu'il y avait des ateliers de théâtre forum dans lesquels les soignants et les soignantes remettaient en scène des situations de violence institutionnelle que eux-mêmes avaient vécues pour essayer en fait de collectivement de trouver des mots, de trouver des parades, de trouver des gestes, des façons d'être qui feraient qu'on pourrait avancer un peu, pas des solutions magiques, mais qu'on pourrait juste collectivement avancer un peu et essayer de faire en faux quelque chose qui, dans la vraie vie, nous aiderait par ailleurs ensuite. Et donc, le film se construit comme ça, entre des simulations et le théâtre forum. C'est un film, en fait, qui interroge ça. Est-ce qu'il est possible d'être bienveillant au sein d'un système maltraitant ?
On écoute un extrait de votre film, Alex, sauf qu'il peut, sélectionné au Festival de cinéma du réel 2024.
Alors, je suis interne en psychiatrie et c'est la nuit et je suis appelée pour une entrée dans le service. C'est une patiente qui a un profil un peu borderline et qui est assez agitée et qui vient là, ce soir-là, pour une tentative de suicide. Donc, quand j'arrive, elle est très, très agitée et dans sa chambre, il y a à peu près 15 infirmiers qui sont là en train de gérer la situation et on m'attend pour décider les choses et je sais que bah, la règle c'est de la faire qu'elle soit en pyjama et qu'elle ait pas de piercing. Or elle a des piercings partout sur l'oreille et elle est habillée. Donc y a une infirmière qui m'aide et puis tout d'un coup il y a une infirmière qui me dit elle a sa culotte. Il faut qu'elle enlève parce que ça nous est arrivé que les patients cachent des lames de rasoir dans la culotte. Et en fait, ben, j'ai pas pu imposer ça à la patiente parce que déjà, j'avais l'impression d'avoir intrusé énormément son corps.
presque de l'avoir violée, en fait. Et donc, ça n'a pas été possible pour moi d'enlever la culotte. Et à la fois, après, je me suis rendu compte que quand je vais rentrer chez moi, si elle passe à l'acte, hein, si elle a vraiment quelque chose dans la culotte, je serai responsable de ça.
Ouais, on n'est pas là pour faire du Shakespeare non plus, hein. On est là pour ramener les enjeux des situations et qu'on essaye de les comprendre plus, tu vois, de les comprendre, de les analyser, de voir ce qu'on peut faire avec. Celle ou celui qui a vécu l'histoire joue le rôle de celui ou celle qui l'emmerde le plus. Toi, tu joues quoi ?
Un des infirmiers.
Qui est dans la chambre là ?
Ouais.
Celui qui appelle, c'est qui ?
Je sais pas.
Ben, décide.
Toi.
Ok, voilà. Non, mais tu vois, c'est tout bête. Hein.
Il n'y a pas eu d'autres demandes du style, tu veux pas la calmer, tu veux pas faire ci, tu veux pas
faire ça. Si, il y a un moment où tu donnes le traitement, tu peux dire, tu lui prescris ça, et puis toi, du coup, après avoir posé le téléphone, tu reviens avec la dose de médicaments qu'on lui donne.
Quoi ?
Bah, tu connais.
Lâchez-moi, mais lâchez-moi.
Madame,
vous allez devoir mettre ce pyjama.
Lâchez-moi !
C'est les règles, madame Machin.
Voilà, il faudrait qu'on vous enlève les piercings aussi.
Quoi ?
Pour rester dans la chambre.
Attends. Elle a encore sa culotte, hein. Bah, tu sais, moi, j'ai une patiente scalpée dans la culotte, ça n'a pas raté, hein.
Non,
ce que tu veux, mais...
Bon, okay. Non, là, c'est pas possible. Non,
comme
je suis désolée, c'est pas possible.
Comme tu veux.
Ça donne bien à voir ce que t'as...
Un peu trop, oui.
Un peu trop ?
Non.
Profite du fait que t'es dans le personnage qui t'énerve pour aller le chercher, lui.
Ouais.
Avec la chose compliquée que tu dois lui donner raison.
À mon personnage.
Ouais.
Ouais.
Okay. Tu défends ton personnage. C'est pour ça que tu lui as donné ça à elle.
Okay.
C'est pour pas aller te remettre dans le même état dans lequel t'as été. C'est elle qui va porter le boulot à ta place, là.
Ok.
Ça marche ? Ok.
Vous mêlez effectivement dans votre film témoignage authentique et jeu d'acteur, on pourrait dire, puisqu'il y a ces ateliers de théâtre, cette formation aussi où les patients, ce ne sont pas des vrais patients, ce sont des acteurs qui jouent le rôle de patient dans un rôle de formation ou médical. C'est un dispositif qui peut comporter quelques similitudes finalement avec votre précédent film, Sans frapper, dans lequel différentes personnes lisaient une histoire de viol qu'ils n'avaient pas vécue. Ce dispositif, à chaque fois en incluant un peu de jeu d'acteur, vous permet de libérer plus facilement une parole intime ?
Bah, moi j'ai l'impression que déjà, bon, les deux sont authentiques. Pour moi, enfin, l'authenticité, ce serait une vaste question, mais... Je pense que les émotions que les gens vivent et en simulation et au Théâtre Forum sont réelles. Enfin, quand ils rejouent ces situations, c'est réel pour tous. Et après, c'est pas que des comédiens et des comédiennes. Il y a aussi des chauffeurs de taxi, il y a des bibliothécaires. Ils sont formés pour devenir patients simulés, mais il y en a plein qui ne sont pas du tout comédiens professionnels. En tant que spectatrice, je sais que la violence... Assez rapidement, en fait, je m'en protège. Je vois que tout mon être se met en branle pour ne pas la prendre. Je commence à devenir sceptique, à devenir hypercritique, je commence à regarder le cadre. Enfin, je déteste en fait les cinéastes qui me projettent une violence que je peux pas prendre et qui n'est pas regardable, qui n'est pas entendable. Et voilà, c'est la spectatrice que je suis qui fait que je fais les films que je fais. Et je pense que dans ces deux derniers films, ce dispositif fictionnel fait qu'on peut le regarder parce que les spectateurs se disent « ça va, c'est de la fiction », même si ça parle complètement de la réalité. Et je pense que c'est une façon peut-être un peu bizarre de détendre le spectateur en lui disant « ne vous inquiétez pas, c'est que de la fiction ». Et au fur et à mesure, en fait, il s'aperçoit que ce qu'il est en train de regarder, c'est la réalité des gens. Parce que les simulations... très très souvent en fait sont des scénarios qui existent ou qui ont existé et puisque vivent les soignants est très enfin très très concret, très très ancré dans leur quotidien. Donc oui, moi je pense que c'est une façon de c'est un biais pour rendre la réalité accessible et dans la violence en général et le trauma en particulier, c'est difficile d'en parler. Enfin, c'est de façon juste. Enfin, ouais, j'enfonce une porte ouverte, mais bon, tu dois te savoir mieux que moi. Mais...
Je pense qu'il y a des films de fiction qui sont trop vrais pour être faux. C'est la sensation. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec cette séparation qu'on fait. Je préfère le terme anglais non-fiction parce que il y a vraiment des films qui sont considérés de fiction et qui pourtant arrivent à dire quelque chose du réel qui serait peut-être même pas filmable dans la vraie vie, quoi. Moi aussi, je me pose ces questions de comment filmer la violence. Je pense que c'est au cœur de mon film, mais je pense que c'est pour ça aussi qu'il est de plus en plus difficile pour moi de regarder des films qui ne sont pas faits par des gens qui sont issus de l'endroit, enfin du lieu, enfin depuis quoi on filme, qui regarde, pourquoi moi je regarde ça, pourquoi on me fait regarder ça. Donc c'est des vraies questions.
Il y a aussi, Alex, dans votre film, une dimension politique très forte qui est en toile de fond, qui est finalement la limite du système hospitalier aujourd'hui, l'essoufflement, pourrait-on dire, du système hospitalier. Ce message politique était déjà présent lors de l'écriture du projet ou pas du tout? Il est apparu finalement pendant le tournage ou...
Ah non, c'était le but du film. C'était là vers où allait le film. Pour moi, il fallait que le film... Et pour moi, ce n'est pas un essoufflement. On est au-delà de l'essoufflement. Là, on est presque en réanimation du système hospitalier. C'était hyper important pour moi que les soignants et les soignantes puissent dire la réalité dans laquelle ils vivent. Et ce qui m'importait aussi, c'est qu'on puisse se mettre à la place des soignants. Et qu'il n'y ait plus de différence au bout d'un moment entre les patients et les soignants. Qu'on se dise tous qu'on est des citoyens et qu'on est responsable de l'hôpital public et que l'endroit du soin, c'est quand même un endroit où l'humanité veut dire quelque chose, comme l'éducation, comme l'art parfois, comme la spiritualité parfois. Et l'endroit du soin, pour moi, c'est hyper important et c'est un endroit qu'on est en train de pulvériser. Et où être un être humain, que ce soit du côté des soignants ou du côté des patients et des patientes, c'est en train de ne plus vouloir dire grand-chose. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'eux me transmettaient. Et elle. Et oui, pour moi, c'était le but du film. Si le film ne disait pas ça, j'avais aucune raison de faire ce film.
Ça montre aussi l'intimité quand même des médecins. Leur intimité dans le sens, ils font tomber le masque du médecin qui doit ne pas montrer ses émotions face aux patients. Et là, comme il y a ce jeu toujours où ils jouent la scène, puis après, ils disent ce qu'ils ont ressenti pendant la scène. Il y a aussi cet aspect très important, je trouve, dans le film, où ils font tomber le masque et on découvre finalement les hommes et les femmes qui se cachent derrière ces médecins et ces infirmiers.
Bah, c'est ce que je trouvais hyper beau dans la simulation. C'est qu'en fait, c'est vrai qu'ils ont un rôle à tenir. Parce que l'idée, c'est quand même qu'ils vous soignent. Donc, ils ont un rôle à tenir. Mais je pense que pendant longtemps, en fait, on a demandé, ce qu'on enseignait, c'était qu'il ne fallait pas que les gens, les soignants et les soignantes, se montrent leurs émotions. Et là, on est dans une autre... j'ai l'impression que cette perspective-là est en train de changer. Et en effet, c'était hyper beau de voir des gens hyper vulnérables qui savaient pas, qui n'ont pas appris à communiquer comme on a... tous et toutes pas appris à communiquer en général. Et c'est juste des citoyens comme les autres. Et ce que je trouvais aussi hyper beau, c'est qu'à travers ces simulations, on essayait de pointer leur représentation raciste, sexiste, homophobe, transphobe, classiste. Et en fait, on devrait tous faire ça. Enfin, et ce que je trouvais aussi hyper beau et complètement désespérant, c'est que c'est quand même des gens en général qui ont une espèce de ça, c'est quand même un sacerdoce. Enfin, s'occuper des autres, soigner les autres, c'est pas rien. Enfin, c'est quelque chose d'énorme. Se préoccuper de l'autre comme ça. Et en fait, du coup, c'est des gens à qui on essaie d'apprendre la bienveillance et qu'on empêche d'être bienveillant. Et en fait, c'est ça qui les tue. Parce qu'il y a une espèce d'injonction contradictoire permanente Et c'est une catastrophe pour ces gens. Parce que c'est comme si ça venait enlever le sens de leur métier, de leur fonction, de ce qui a fait qu'ils se sont quand même tapés, pour la plupart d'entre eux, beaucoup d'années d'études. Donc oui, moi ça je trouvais ça hyper beau qu'on les voit, et il y a plein de gens qui sont sortis de la séance et qui m'ont dit ça, des gens qui savent ce que c'est que de devoir être soigné, de se mettre entre les mains de l'autre. Il y en a plein qui étaient hyper émus, qui m'ont dit tiens, c'est la première fois que j'ai regardé les soignants comme des êtres humains, et je me suis dit en fait oui, c'est juste des êtres humains, et dans toute leur beauté, dans toute leur vulnérabilité. Et ça, pour moi, c'était un truc. Je suis contente de ça par rapport au film. Enfin, j'espère. Je crois. Enfin, voilà. Si ça marche, ben, je suis hyper contente.
Passons à votre film, Mallory, L'homme vertige, qui a été présenté en avant-première française au Festival Cinéma du Réel. Pouvez-vous commencer par nous introduire ce film ?
C'est très difficile. Alors, Alex a parlé de soins. Et je me suis formulée dernièrement que pour moi, le cinéma est un acte de soin. Parce qu'on me pose la question, mais comment, enfin, tout le monde se la pose, comment vous avez fait pour filmer ces gens, pour qu'ils vous laissent les filmer ? C'est la question évidente qui surgit tout le temps, mais je pense que d'abord, c'est le cinéma qui m'a ramenée en Guadeloupe. Pour parler du sujet du film et de pourquoi j'ai fait ce film, je pense que c'est plus facile pour moi d'expliquer qu'est-ce qui a fait naître ce film et comment je me suis retrouvée à faire ce film. Et c'était pas une évidence, c'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais au Canada, j'étais loin. J'étais en lambeaux, j'étais malade et j'avais la nécessité de revenir en Guadeloupe. Mais pour moi, ça a toujours été impensable de me dire que je pouvais vivre là-bas parce qu'il n'y a rien pour moi dans le milieu artistique. Bon, il n'y a pas de politique culturelle, il n'y a pas de conservatoire, il n'y a pas de lieu d'art, il n'y a pas de... Il n'y en a pas. Voilà. Donc... Et le seul le centre des arts qu'on voit dans le film, il est abandonné depuis 15 ans en travaux. Et voilà. Et donc, je me disais, bon ben, j'irai pas vivre en Guadeloupe avant mes 50 ans ou quand je serai à la retraite. Et puis, quand je décide de partir, je vois cette formation auteur-réalisateur de films documentaires. Voilà, par les ateliers Varan, et je me dis, bon, ben, je tente, et parce que j'avais tellement peur de rester coincée et de ne pas pouvoir repartir, de perdre mon ouverture sur le monde. Et je me rappelle avoir écrit, quand j'écrivais le film, « Le territoire qui vous ronge l'esprit ». J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose, que ce contexte nous mange, en fait, Et tous les matins, je me réveille avec la conscience de vivre dans l'oppression. Et donc, comme Alex disait aussi, pour moi, ça relevait de la survie, en fait. Je reste, et ce qui me permet de rester, c'est de me dire que je fais un film et que ça sert à quelque chose. Et donc, toute mon existence, depuis ce moment, depuis 2016, a été consacrée à passer du temps avec ces personnes que j'ai filmées, voilà, et c'était que ça. Et à m'occuper de moi-même, parce que je suis moi-même malade, et donc je jonglais entre être avec mes personnages et m'occuper de moi-même. Et donc... J'ai erré dans les rues, parce que c'est un film qui part de ma propre solitude. Et en fait, j'ai fait des rencontres. Et j'ai rencontré ces gens comme on rencontre. Cette question de comment je les rencontre, qu'on me pose, ça me renvoie au fait qu'on ne sait plus rencontrer les gens. Si on se demande comment on rencontre des gens, parce que le cinéma n'est pas séparé de la vie. on fait du cinéma comme on vit. Donc, ces personnes, c'est des personnes... je ne sais pas, je suis assise à la boulangerie, j'observe, je prends le temps de regarder, je marche. Et il y a des gens, et même à Paris, qui est pourtant une grande ville, quand on vit dans un endroit, il y a des personnes qu'on croise tous les jours. Si on regarde, voilà, cet homme qui passe le balai, sûrement il repasse dans cette rue, il passe le balai tous les jours. Donc, et puis, peut-être que le fait que je sois cinéaste, ben, j'ai ce regard, j'ai cette attention au monde. Et ces personnes, je les ai rencontrées comme ça, en étant assis sur un banc, en parlant. Et en parlant de moi, en parlant d'eux, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et pour moi, il s'agissait de filmer toutes ces solitudes depuis ma propre solitude et montrer ces mondes, en fait, qui existent dans la ville, dans cette non-ville, dans cette ville fantôme, et qui pourtant abrite des âmes, des gens qui ne sont pas seulement dans la survie. Mais comment parler de cette question de l'errance comme un état d'être au monde, et qui raconte aussi un état de l'humanité, et parce qu'on fait partie du monde, on est un petit territoire de à peu près 400 000 personnes, mais je crois que c'est... en allant dans le détail qu'on peut parler de ce qui est plus grand. Enfin, je fais un petit peu un pas de côté, mais on me demande, oui, mais pourquoi l'homme vertige ? Je dis, mais en fait, l'homme, c'est l'homme en général, mais la langue française est ainsi. Les hommes et les femmes sont des hommes, avec un grand H. Donc, dans la pensée créole, dans la langue créole, la langue créole est une langue non genrée. Donc, je n'ai pas cette vision binaire des hommes et des femmes. J'ai filmé des êtres humains.
Je disais tout à l'heure, pour légèrement introduire votre film, que vous montrez un intime des racines et d'un lieu. Effectivement, on a cette sensation de déambulation dans une ville un peu en ruine, abandonnée. C'était ça aussi que finalement vous vouliez montrer, qui transparaît dans votre film ?
Oui, alors d'abord j'ai commencé à Chanzy avec le film Chanzy Blue. Chanzy, c'est une cité qui était en voie de démolition. Et en fait, je suis retournée là-bas parce que j'avais une tante que j'allais voir depuis l'enfance. Et quand j'ai commencé la formation de Varan, j'avais une autre idée de film. Et je suis retournée là-bas parce que je voulais voir ce que c'était devenu, pas pour faire un film. Et en fait, ma tante qui vivait là-bas, qui a déménagé à quelques mètres plus bas pour vivre dans un autre immeuble, je me suis dit, bon, ben, cet appartement, il est devenu quoi ? Donc, j'ai commencé à marcher là-bas, à revoir des gens que j'avais connus plus jeunes. Et c'est comme s'il y avait une force qui me faisait retourner sans cesse. Et puis, au bout d'un moment, un jour, je passais, j'avais la caméra parce que j'avais fait un exercice dans la ville. Et je me suis dit, bon, ben, je vais filmer, je vais retourner là-bas et filmer. Et puis, j'ai ramené des images. Et donc, personne ne comprenait ce que j'essayais de montrer. Parce que je montrais des déchets, je montrais des bâtiments en ruines, la végétation qui envahissait. Ce qui restait encore quelques habitants, c'était comme un peu des survivants, quoi. Soit des personnes qui squattaient, soit des personnes âgées, seules. D'ailleurs, ce vieil homme qu'on voit aussi dans Chanzy Blues et dans L'Homme Vertige. Et donc, qu'est-ce que cet état des corps et cet état du bâti, enfin, qui est à l'image du bâti, raconte de la politique de la ville ? Qu'est-ce que ça raconte ? Et puis après, quand j'ai fini Chanzy Blues, je me suis dit, ben, j'aimerais continuer à explorer cette question de la décomposition à l'échelle de la ville. En fait, prendre la ville, point à pitre, comme une allégorie de ce qui se passe à l'échelle de la Guadeloupe, c'est-à-dire la lente disparition de nous-mêmes. Et je dis ça, c'est très fort quand je le dis, mais c'est vraiment la sensation qu'on a, la sensation qu'on nous fait disparaître, qu'on nous tue, en fait, qu'on n'arrive plus à vivre. La vie est trop chère, l'eau est contaminée, nos corps sont contaminés. Moi, j'ai la molécule du chlordécone dans le sang. C'est un pesticide qui a été utilisé en dérogation spéciale aux Antilles. Et donc, je vis avec ça. On dit que le colonialisme, je vis avec le colonialisme dans mon sang, littéralement. Donc, je ne peux pas oublier. Et quand on me dit que j'exagère sur cette situation, je dis, mais en fait, pour comparer la sensation de vivre dans ce contexte d'oppression, je dirais que c'est comme être poignardé tous les jours sans mourir. C'est comme si on essayait de nous tuer, mais qu'on n'arrivait pas à mourir. Et donc, nos terres sont contaminées pour 700 ans, donc pour toujours. Et de plus en plus d'étrangers et de Français qui s'installent et qui volent nos terres. Quand je dis vol, c'est littéralement ça. Des personnes, du jour au lendemain, se retrouvent sans terre parce que des Français ont construit des maisons sur des terres appartenant à des locaux. Et c'est ce qui se passe en Martinique. Il y a des émeutes en ce moment. Je ne sais pas si on en parle en France. C'est à cause de ça. C'est des gens qui sont dans des procès interminables parce qu'on leur a volé des terres. Et donc, tout ça est en sous-texte dans le film. Et je traite ces questions politiques, ces questions d'appartenance au territoire avec la poésie, la littérature, un texte que j'ai exhumé qui pour moi, en fait, ce film, c'est une lettre d'amour, un peu une lettre d'amour désespérée, quoi. Où je parle à la fois de ce qui a été oublié du passé et ce qui est là au présent et qu'on ne voit pas non plus.
On écoute un extrait de L'Homme Vertige que vous avez réalisé, Mallory, en 2023.
Ce n'est qu'avec une compréhension claire que l'homme est capable de dépasser ses peurs. Peur de la rivière trop pleine et qui coule trop vite. Peur du tonnerre, peur de la foudre, peur de l'éclair. Peur du capotier, peur du chemin sombre, peur de la brousse de Kobiana, peur de la brousse de Kunera. Peur des voyants, peur des sorciers, peur des guérisseurs, peur des espions, peur de la police. Peur de tout dirigeant politique, peur des hommes armés, peur des forces qui se présentent devant nous. Notre peuple a trop longtemps vécu dans la peur.
Alors, on ne le sait pas, ça, dans le film, mais effectivement, votre maladie, ce colonialisme dans le sang, comme vous dites, mais pourtant, on se transparaît quand même dans le film, un intime qui est votre intime aussi, on le sent, puisque ce sont vos racines que vous filmez, comme vous l'avez dit. Vous revenez en Guadeloupe parce que vous êtes allé faire vos études, comme vous l'avez dit, à Montréal. Vous documentez l'intime de la Guadeloupe, mais en même temps, votre intime aussi. Il y a ce double, cette dualité.
Oui, tout à fait. En fait, je me suis dit, en écrivant le film, que faire du cinéma, je crois, sur nos territoires, c'est aussi se réapproprier quelque chose et se redécouvrir, en fait, en se filmant. Et moi, ça a été le cas de prendre ce temps, de regarder, d'aller dans des endroits, de vaincre mes peurs. J'avais peur tout le temps, j'ai fait ce film en tremblant. Déjà parce que j'allais dans des endroits qui sont considérés comme dangereux, mais aussi en tant que jeune femme, seule, avec une caméra, dans des quartiers qui sont considérés comme dangereux. En tout cas, je ne suis pas morte. Tout est une question de regard. Mais voilà, et puis dans le film, on a cet extrait d'un discours prononcé par Amilcar Cabral, qui a été restauré assez récemment, que j'avais entendu dans un film de Philippa César, un discours sur la peur. Et il énumère toutes ces peurs, en fait, qui paralysent le peuple. Et quand je filme ces personnes dans la ville, je me filme aussi. Je ne me sens pas extérieure à ce qu'on voit dans le film. Moi aussi, je suis dans une forme d'errance. Moi aussi, je ne sais pas où vivre. Moi aussi, j'ai du mal à vivre. Et donc, par exemple, Tichal, le vieil homme qu'on voit, il a été révolutionnaire, il est allé à Cuba. Et maintenant, il vit seul dans son appartement avec l'oxygène. Donc, il n'arrive littéralement plus à respirer parce qu'il a travaillé dans les immeubles en construction de la rénovation urbaine et dans l'amiante. Et donc, voilà, c'est tout ça. Ces corps, en fait, contaminés ou malades par la drogue, par la maladie mentale ou... voilà. Donc, c'était devenu un peu mon grand-père, quoi. J'ai perdu mes deux grands-pères assez jeunes. Et donc, c'était comme si la vie m'offrait un grand-père qui pouvait m'apprendre sur le passé, sur mon passé, et en même temps m'accompagner dans cette vie. Et j'ai commencé à m'occuper de lui parce qu'il y a cette question aussi de comment on fait du cinéma? Est-ce qu'on va juste dans des lieux et qu'on filme des gens et qu'après on rentre chez soi? Pour moi, j'avais cette responsabilité qui allait de soi. Bon, voilà, il n'a rien à manger, il faut que je lui fasse à manger, il faut que je lui fasse ses courses, il faut que je lui fasse ses démarches administratives pour qu'il change d'appartement. Voilà, c'est toutes ces questions-là que ça me pose de faire du cinéma, enfin de filmer la vraie vie des gens.
Et on l'a dit aussi déjà, enfin vous l'avez dit surtout déjà, il y a une dimension politique très forte dans votre film, qui est, et vous citez différents d'ailleurs auteurs du XXe siècle qui est en faveur de la décolonisation. Et finalement, donc, le message très fort de ce film, c'est ce que vous avez subi par un pouvoir colonisateur.
Oui.
Un abandon aussi.
Un abandon, oui. Enfin, comment dire, le mot abandon, c'est délicat parce que abandon, ça voudrait dire qu'on attend quelque chose. J'ai eu un retour, parce que j'ai fait le montage à Périphérie, et une des personnes qui avait vu le film en cours de montage a dit, qui n'a rien à voir avec la Guadeloupe et qui ne connaît pas bien la Guadeloupe, a dit « C'est comme si on avait essayé de détruire toute envie d'indépendance chez les gens. » Et quand elle a dit ça, je me suis dit « Waouh, quelqu'un d'autre le voit, ça veut dire que c'est réel. » Et en fait, j'ai eu un autre retour lors de la projection du film à Berlin. Une dame qui est venue me voir et qui me dit « Mais est-ce que l'indépendance va guérir les gens ?» J'ai dit, mais se poser cette question, est-ce que l'indépendance va guérir les gens, c'est se demander si l'indépendance est nécessaire. Et c'est même pas une question. Est-ce que c'est une question de se demander si un peuple a le droit à l'autodétermination ? Et la relation avec la France, c'est une relation toxique. C'est une relation qui n'est pas viable, qui ne peut pas... Ce qu'on parle de vivre ensemble, on ne peut pas vivre ensemble. Comment vivre avec son bourreau qu'on vit avec l'oppresseur, en fait. C'est impossible. En plus, avec une oppression en cours, il y a un mépris tellement grand qui se répète et à tous les niveaux, à la fois artistique, et c'est pour ça que j'ai tenu à rendre tous ces hommages à nos esthétiques, en fait, à puiser dans ce qui existe pour essayer de construire un langage cinématographique. C'est un vaste programme, je pense qu'il va m'occuper pour les 30 ou 40 prochaines années, mais je pense qu'il est temps qu'on se regarde, et je crois que quand on se regarde, le monde, le reste du monde nous voit. Et je suis assez fière d'avoir pu présenter ce premier long métrage à la Berlinale. Pour moi, c'était un grand choc, quoi. C'est le premier film guadeloupéen à la Berlinale. Et c'est comme si, d'un coup, en fait, on existe pour le reste du monde. Et non seulement on existe pour le reste du monde, mais en plus, on existe tel qu'on est et pas comme l'autre nous a toujours représenté.
Claudia von Allmann et Claudine Bory, que j'ai interviewé dans le premier épisode de cette série sur filmer l'intime et le politique au féminin, étaient d'accord pour dire que les deux notions intime et politique sont pratiquement forcément liées. Est-ce que c'est votre avis, Alex et Mallory ?
Oui, oui, que l'intime est politique. J'étais en train de réfléchir, au contraire, je me demandais, est-ce que le politique est forcément intime ? Oui, l'intime est politique. Enfin, je veux dire, on le sait depuis 45 ans, un peu plus même. Enfin, on le sait depuis plus longtemps, mais je pense que c'est bien dans l'esprit de tout le monde depuis les années 70. Tu parlais de la maladie. La maladie, c'est hyper politique. Enfin, et celle dont tu parles, la tienne, je veux dire, il n'y a pas plus politique.
D'ailleurs, il y a un terme qui est celui d'écocide. On sait que ce pesticide était... On savait qu'il était dangereux parce que les États-Unis l'ont interdit dans les années 70. La France, après, l'a interdit dans les années 90. Mais pourtant, il y a eu une dérogation pour nos territoires. Ça voulait dire, en fait, c'est pas grave. Pour eux, c'est pas grave. C'est ça que ça voulait dire. Et donc, oui, si l'intime est politique, souvent, quand on me pose la question des personnages du film et de comment ils ont donné leur consentement à être filmés, hein, je crois que ce sont les personnes qui ont le plus conscience du politique parce qu'elles prennent de plein fouet. En fait, elles le vivent dans leur chair. Et tous les personnages du film ont une très grande conscience de en quoi leur existence et ce qu'ils vivent au quotidien est politique. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont dans le film. Et c'est ce qu'ils racontent. Ils savent très bien que faire un film ne va pas changer leur vie. Mais faire ce film et s'exposer, mettre sa vie dans ce film, c'est parler, enfin c'est donner sa vie au cinéma comme on donne sa vie à la science. Voilà, c'est ça.
Vous considérez-vous votre cinéma comme militant ou pas du tout ? Pour faire le lien là encore avec l'épisode précédent avec Claudine et Claudia, malgré le fait qu'elles aient réalisé des films donnant la parole aux femmes et permettant la libéralisation de la parole des femmes dans les années 60, 70, 80, elles se défendent totalement d'avoir fait un cinéma militant et ne veulent pas être catégorisées comme cinéma militant. Et vous, quelle est votre position par rapport à ce terme de cinéma militant ?
Je ne sais pas si j'ai quoi que ce soit d'intelligent à dire sur le sujet. J'ai juste l'impression que cinéma militant, il y a une espèce de connotation négative depuis des décennies autour de ce terme. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même... quand tu disais tout à l'heure l'intime est politique, tout ce qu'on fait est politique. La façon dont on s'habille est politique, nos films sont politiques. Même quand on fait Bienvenue chez les Ch'tis 1 ou 2, c'est politique. C'est hyper politique. Donc moi, mes films sont des films très engagés, je vais dire, et forcément, du coup, militants. Mais militants, c'est aussi... Si, c'est des films militants, parce que c'est quand même des films qui s'insurgent de quelque chose. Donc en ça, je milite, oui. Avec mes films, j'ai l'impression que je milite pour... Pourquoi ? Pour... Contre la culture du viol. Mon premier film, c'était un film sur les gens qui vivaient dans la rue, à Paris. Contre... tous ces gens qui sont relégués comme ça, et on fait comme si, et c'est parce qu'ils n'ont pas mérité. Il y a toute cette histoire, cette idée de la méritocratie qui est d'une au-delà de la bêtise, qui est d'une dangerosité hallucinante. Ben oui, c'est des films que j'ai énormément montrés aussi dans des milieux associatifs, parce que je considère que c'est mon devoir de le faire. Et pour ce film-là, ce sera la même chose. C'est aussi mais des films militants, pour moi, c'est aussi où on les montre, à qui on les montre, qu'est-ce qu'on en dit. Est-ce qu'on les montre que à des gens qui sont déjà convaincus? Est-ce qu'on les montre dans des milieux où les gens ne sont pas du tout d'accord avec vous? Et c'est aussi prendre le risque d'entrer dans des conflits, de discuter, d'essayer de convaincre, d'aller chercher les gens là où ils sont pour essayer de les amener un tout petit peu ailleurs. Je sais que c'est difficile, parce que je sais que, par exemple, pour montrer mes films en festival, il faut qu'ils soient militants, mais pas trop. Je veux dire, il faut que je les déguise en des films d'auteurs politiques avec une espèce de distance, alors que je ne suis pas sûre d'avoir complètement cette distance et d'avoir envie de l'avoir, en vrai. Donc, moi, je serais heureuse que quelqu'un dise que je fais des films militants.
Mallory.
Le terme militant, c'est vrai que ça classe comme ça dans une catégorie, mais au-delà de ça, je crois que je ne sais pas si j'ai le choix, en fait, d'être militante ou pas militante. Quand on vit dans un contexte d'oppression, c'est soit on se laisse mourir, soit on fait en sorte de ne pas subir. Donc résister, c'est la seule option.
Militant, j'ai l'impression que ça doit venir de militaire, non? Donc c'est partir en guerre contre. Et je veux dire, penser qu'on est dans un monde sans conflit, qu'il n'y a pas d'antagonisme. Enfin, moi, je vois bien qu'il y a plein d'enjeux qui sont antagonistes aux miens. Moi, je fais du cinéma contre. Je fais du cinéma. Enfin, mes films se construisent contre d'autres films. Ils se construisent aussi contre certaines idées.
Dans le titre de cet épisode, il y a filmer l'intime au féminin. On n'a pas trop parlé forcément du féminin jusqu'à présent. En quoi votre genre influence-t-il votre travail?
J'ai du mal à séparer mon genre de mon milieu social, de l'endroit où je vis, du fait que j'ai des enfants, le fait que j'ai certains amis, que j'ai fait certains voyages. Enfin, mon identité, elle est multiple, et le fait que je sois une femme, évidemment, sculpte quelque chose de mon regard, mais comme plein d'autres choses chez moi. On parlait tout à l'heure d'oppression. Oui, être une femme, ça veut dire vivre des oppressions. Après, voilà, je suis blanche. Il y a plein de choses chez moi qui déterminent mon regard. Donc cette oppression-là, bien sûr, elle fait partie de mes films. Tu parlais tout à l'heure, j'ai fait aussi un film dans la rue, pas du tout dans le même contexte. Pendant 3 ans, j'ai filmé 2 hommes qui vivent ensemble dans la rue, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui meurt. Et ben, le fait d'être une femme seule avec une caméra, en effet, ça détermine ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas, ce que tu as peur de faire. Et puis on nous a éduqués avec la menace justement du viol, de l'agression. Du coup, ça, c'est tellement ancré en moi qu'il y a plein de choses que je m'interdis de faire, parce que je connais le danger, ou j'imagine, ou je fantasme le danger que j'encours. Donc oui, être une femme, en ça détermine plein de choses. C'est anecdotique, mais on va faire... je devrais peut-être pas le dire là, mais on fait un étalonnage. L'étalonneur nous dit que nos images sont pourries. J'y vais avec une chef opératrice, avec la chef opératrice qui s'est occupée du film. Donc qu'il n'arrive pas à étalonner parce que nos images sont pourries. Il y a une partie de moi qui se dit... Ils pensent ça parce qu'on est 2 femmes. Et après, je me dis, bon, je suis peut-être un peu parano et j'ai un biais, parce que j'ai tellement subi ce genre de remarques que maintenant j'ai un biais et que j'en deviens paranoïaque. Et ça se trouve... en l'occurrence, il avait tort. Les images étaient super. Et on a dû changer d'étalonneur. Mais être une femme, c'est... Enfin, J'ai l'impression que, je ne sais pas si j'ai un regard féminin, j'en doute et je pense que toutes les femmes ont un regard féminin qui est différent. Parce que entre Manoré et moi, je pense que la féminité, on ne la vit pas de la même façon, forcément. Enfin, mais je pense qu'être une femme, c'est aussi devoir apprendre à ne pas s'excuser, devoir apprendre à ne pas se sentir illégitime. Oui, en ça, devoir en commission, par exemple, de financement. Enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai appris, que je commence à apprendre gentiment, doucement et avec beaucoup de douleur au cours des années, c'est d'arrêter, oui, de me dénigrer, par exemple. J'arrêtais pas de m'excuser, de dire pardon, d'avoir l'impression que j'avais pas assez bien fait, que j'étais peut-être pas forcément à la hauteur. Et ça, c'est vraiment, c'est dû à mon éducation genrée. Et peut-être aussi parce que j'ai été élevée comme une fille, du coup, je fais un film sur le soin. Parce que les filles sont du côté du care. Je fais un film sur le viol, parce que ça me concerne très fort. Je fais un film sur les gens qui vivent dans la rue, parce que c'est des gens qui sont vulnérables. Peut-être que si j'étais née homme, j'aurais fait des films sur mes ennemis. Par exemple, j'ai des amis qui font des films sur leurs ennemis. Je serais infoutue de le faire, parce que c'est... Ça les oblige à être dans un conflit permanent. Et aussi, quand les gens viennent voir son film, quand les protagonistes viennent voir le film. Et moi, je sais que j'ai été élevée comme une fille. Donc, j'ai été élevée à être gentille, à servir la soupe et à faire en sorte que tout le monde se sente bien. Donc, j'espère qu'un jour, j'arrêterai de faire des films de filles dans ce sens-là.
Je rejoins tout ce que tu as dit. Et je pense que dans ce que tu as dit, il y a... Voilà, être une femme, c'est aussi être perçue comme inoffensive. Donc, c'est à la fois ce qui, comment dire, ce qui peut aider et en même temps ce qui peut. C'est-à-dire que j'ai pu, je pense, filmer des hommes et des hommes m'ont laissé les filmer dans la rue parce que je pouvais pas leur faire de mal. Et en tant que femme, forcément, bah, je renvoie à la douceur, la beauté, enfin bon, voilà, quelque chose qui apaise, j'en sais rien. Et j'ai pu faire ce film aussi, et filmer dans des endroits sans autorisation, parce qu'en tant que femme, on ne nous prend pas au sérieux. Donc... Donc voilà, bon, elle est en train de filmer, mais bon, ça ne va pas être un grand film. C'est un petit film. Donc, y a ça, mais moi, je suis consciente qu'il y a un être femme dans le genre et dans la société. Enfin, femme en tant que construction sociale. Je ne peux pas le nier parce que j'ai eu une éducation de femme. Comme elle disait, Alex, ça a déterminé tout ce que je pouvais faire et ne pas faire. Donc, même faire du cinéma, moi, bon, déjà, la plupart des réalisateurs que j'admire sont des hommes, et même en littérature et même en théâtre, etc. Donc, mais je ne me réveille pas le matin en me disant je suis une femme. Enfin, je sais pas comment... J'ai pas l'impression que mes interactions, en tout cas que je vois le monde séparé entre hommes et femmes. Parfois, on rencontre des gens qui sont que des êtres humains. Et quand on a en face de soi un homme et une femme, on le sait. Des gens qui sont dans... Je crois que être un homme ou être une femme, c'est avant tout endosser ces rôles-là. Et je ramène cette question de genre aussi à la race, entre guillemets, à quand on rencontre une personne blanche, qui on sent la blancheur en tant que concept. Parce qu'il y a des gens que je rencontre et je me dis, waouh, de toute évidence, cette personne renvoie au privilège, à tellement de choses. Et parfois, on rencontre quelqu'un et c'est juste un être humain. Et voilà, c'est très difficile cette question parce que on est constamment dans la vie intime et dans le travail et dans les milieux dans lesquels on évolue. On ne sait jamais à quel moment on... Moi, je ne sais jamais à quel moment je suis noire dans les yeux de l'autre, à quel moment je suis femme et noire, à quel moment voilà, je suis un être humain. Voilà, c'est... Et je pense qu'on a parlé du soin et du corps médical. Moi, je sais que je suis une femme quand je vais chez le médecin. Je sais que je suis qu'une femme quand je suis en face d'un médecin qui me dit « C'est qui le docteur? C'est vous ou c'est moi ?» Et quand on fait des choses sans ma permission sur mon corps, voilà, je pense qu'on ne peut pas nier cette question du genre parce qu'on vit des violences qui sont liées à ça.
Nous allons conclure par trois questions courtes. La première, quels sont vos prochains projets, rapidement, si vous en avez?
Moi, on tourne un long métrage de fiction en septembre. C'est l'histoire d'une femme qui refuse de souffrir et qui, parce qu'elle accepte à un moment donné de souffrir, s'émancipe.
On ira le voir au cinéma.
J'espère.
Pour en savoir plus. Mallory.
Moi, je pense que c'est un peu tôt pour en parler. Déjà, je viens de finir L'Homme Vertige et j'ai encore du mal à en parler. Mais je pense que je continue cette exploration de nous-mêmes, ce questionnement sur mon territoire.
Comment définiriez-vous le mot documentaire en une phrase, votre définition personnelle?
Moi, je crois que c'est regarder le monde depuis qui on est. Donc, d'abord avec honnêteté. Voilà.
Moi, je crois que le cinéma est forcément documentaire.
Et dernière question, quel film documentaire vous a le plus marqué, s'il fallait en citer un?
Moi, je dirais comme film qui m'ont marqué, c'est Black Harvest de Connolly et enfin du couple Route One de Robert Kramer.
Ben Route One, c'est vrai que c'est un des premiers films que j'ai vu et je me rappelle que ça m'avait ébloui. Oh, je voulais trop être Robert Kramer. J'étais vraiment hyper fascinée par son cinéma. Donc, c'est vrai que ça a été un film important et je ne sais pas pourquoi, parce que je pense que je vais le regretter immédiatement après l'avoir dit. Mais le premier film auquel j'ai pensé, c'est Cochon qui s'en dédie. C'est un film sur l'agriculture, sur un type qui se lance dans l'agriculture intensive, sponsorisée, et qui en fait en devient fou. Et il y a une mise en scène de cette folie, des rêves qui le hantent. Avec ses cochons. Et en tant qu'étudiante, je me rappelle, je m'étais dit, mais quelle liberté. Ils ont fait des trucs, je me suis dit, mais ils ont osé le faire en documentaire. Et je sais que c'est un film qui a fait que j'ai eu envie de faire des films. Et La Bête Humaine aussi, je me rappelle que ça m'a donné envie de faire des films. Il y en a tellement. Et puis là, j'ai honte parce que je cite que des hommes. Il y a plein de femmes, et je ne sais pas aussi pourquoi, mais ce n'est pas du tout un documentaire, mais je l'ai vu à l'USAS, ce film. Et c'était le film de Lucrécia Martel, La Cienaga. Et ce n'est pas un documentaire, mais c'est un film où je me suis dit, mon Dieu, je veux faire des films.
Moi, je n'ai pas honte de penser... Enfin, à des hommes parce que bon déjà il y a beaucoup d'hommes. on commence tout juste à exhumer le travail des femmes et aussi parce que je crois que ces cinéastes je les vois pas comme des hommes. Déjà Black Harvest c'est le couple donc c'est une femme et un homme et c'est-à-dire que First Contact c'était les archives plus le regard de ces populations des années plus tard sur ces archives de premier contact. Et après, Black Harvest, c'est la descendance qui se retrouve confrontée à la violence du monde capitaliste. Donc, pour moi, c'est, ce film, c'est un monument, en fait, qui parle du monde, qui parle de la colonisation, du métissage, de tellement de choses. Et puis, Robert Kramer, quand je dis que je le vois pas, je me dis pas que c'est un homme, c'est parce qu'il a questionné tellement de choses, y compris son regard d'homme, y compris son regard de personne blanche. Et je pense que c'est ça qui m'a marqué dans Route One et le deuxième aussi, c'est qu'il est allé exhumer les hontes, en fait. Donc, il a filmé des Noirs, il a filmé des Blancs privilégiés, des Blancs déclassés, et en même temps, en le faisant avec beaucoup de beauté, de spontanéité, mais aussi en travaillant la mise en scène. Donc, ce film contient beaucoup de monde et contient du documentaire, contient de la fiction, contient des couches de la réalité. Je pense que c'est pour ça.
Merci beaucoup, Mallory Eloi-Pesley et Alex Poukine, d'avoir accepté cette interview.
Merci à vous.
Merci.
Et dans le prochain et dernier épisode sur cette thématique de filmer l'intime et le politico-féminin, je recevrai Lucie Demange et Marie Vétès. C'était Raconter le réel, le podcast qui explore les dessous de la création documentaire. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à mettre 5 étoiles sur votre application d'écoute favorite. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir des informations supplémentaires et des recommandations. Idée originale et réalisation par Clément Touron, montage de Julia Ponte, illustration et visuel de Justine Lofredo. À bientôt pour un nouvel épisode.